L'évangile de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. Au nom de Jésus. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demanda « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils lui répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. Et vous ?» leur demanda Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur ordonna de n'en parler à personne. Ensuite, Jésus se mit à enseigner ses disciples en disant, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort et après 3 jours, il reviendra à la vie. » Il leur disait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et parla sévèrement à Pierre. « Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Puis Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir à moi, avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Chers amis, je me suis posé la question suivante en lisant ce texte. Pourquoi Jésus a rabroué ses disciples? Le terme revient 2 fois ici. Et le sens de rabrouer, c'est faire taire d'un ton sec. Tais-toi, Satan. Une sorte de blâme, de censure, comme s'il ne fallait pas dire ces choses-là. Ou bien comme si c'était une information qu'il ne fallait pas encore divulguer, comme si ce n'était pas le temps de le dire. Je me pencherai plutôt à cette dernière phrase, cette dernière hypothèse. C'est une information qu'il ne fallait pas encore divulguer. Car il était encore trop tôt pour les gens de savoir que Jésus était le Christ. La preuve, même Pierre qui était avec lui nuit et jour, juste après qu'il ait fait une grande confession de foi, « Tu es le Messie, tu es le Christ », même pas une heure après, c'est le même Pierre qui reçoit une parole très dure, « Va-t'en derrière moi, Satan !» Et là aussi, nous pouvons nous poser une question qui est bien légitime. Pourquoi Jésus le traite-t-il de la sorte? Si nous analysons les paroles de Pierre, je crois que Pierre a eu raison. Il est logique envers lui-même. Pour lui, si Jésus est le Christ, il est plus que normal de le défendre, quitte à utiliser même la force, pour le protéger contre tous ceux qui lui veulent du mal. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à Gethsémané. Rappelez-vous, lorsque les Romains et les anciens d'Israël étaient venus pour le capturer, il a coupé l'oreille du soldat romain, Malcolm. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on le défende contre ceux qui lui veulent du mal. Contre ceux qui lui disent du mal, contre les blasphémateurs. Oui, parfois nous sommes rouges de colère, moi y compris, je peux réagir comme la sorte, quand nous entendons des gens qui se moquent de notre foi et de notre Seigneur, mais cela ne touche en aucun cas l'honneur et la gloire de Dieu. Ça ne change rien. Alors ça ne sert à rien de s'emporter, ni de réagir face à des choses pareilles. Justement, je tiens à profiter de cette occasion pour accentuer encore un peu plus la grande différence, un peu comme le Nord et le Sud, sur la théologie de la croix et la théologie de la gloire. Je ne parle pas de la doctrine de la prospérité, ça on sait tout, mais la théologie de la gloire, le fait de protéger cette gloire de Dieu, comme si nous avons les moyens de protéger la gloire de Dieu. La base de la théologie de la gloire, c'est la résurrection de Jésus. Donc, le Christ, qu'on le veuille ou non, il est ressuscité. La gloire de Christ ne dépend pas de nous, la gloire de Christ vient de lui-même. La mort ne pouvait pas le contenir. Il est ressuscité d'entre les morts. La glorification du Fils de l'homme vient de lui-même. La résurrection de Jésus-Christ est capitale pour notre foi et il nous appelle à proclamer au monde entier sa mort et sa résurrection. Et là, on voit la mort et la résurrection. Un Dieu à la fois caché, voilé, et un Dieu révélé, la résurrection. Les deux en même temps, représentés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Par conséquent, ce n'est pas par nos louanges ni nos dévouements pour Dieu que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas à nous de monter vers Dieu pour que sa gloire soit élevée. En plus, ça ne suffirait pas, parce que nos louanges, si belles soient-elles, ne seraient jamais à l'égal de sa gloire. Regardez les anges dans le livre d'Ésaïe. Quand Dieu se révèle, ils n'ont pas pu être face à lui. Cependant, cette gloire de Dieu qui est déjà parfaite par sa résurrection, nous ne faisons que la bénéficier, nous bénéficions de cette gloire. Nous ne donnons pas gloire à Dieu, nous recevons la gloire de Dieu. C'est dans l'inverse. Nous ne faisons que vivre pleinement de cette gloire qui se déverse vers nous. Donc vous voyez le sens, c'est Dieu qui donne sa gloire. Ce n'est pas moi qui va rendre gloire à Dieu, c'est lui qui partage sa gloire pour moi. Le Seigneur n'est pas dans une position de réception, de recevoir quelque chose, comme s'il lui manquait quelque chose. Mais par sa résurrection et par sa victoire, c'est lui qui nous donne en abondance, en plénitude sa gloire, et qu'il accepte de le partager avec nous. Alors, quand nous entrons dans les moments de louange dans nos vies, nous entrons dans cette plénitude de Dieu. Nous sommes touchés par cette gloire de Dieu. Nous jouissions de sa gloire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les anges cachaient leur corps et leur visage par leurs ailes quand la gloire de Dieu se manifestait dans le temple. Cette gloire, la gloire de Dieu en hébreu, kabod, qui est lourd, qui a un poids en abondance, vient vers nous et non pas dans le sens inverse. Alors finalement, la gloire de Dieu, nous la recevons en Jésus-Christ. Il y a un bouleversement de paradigme que le Christ montre à ses disciples. Ils étaient préoccupés à réfléchir sur le comment on doit préserver, comment on va protéger ce Jésus que nous avons entre les mains. Il faut le protéger contre les soldats romains. Ils étaient tous conscients que cet homme est une personne exceptionnelle, donc il fallait le préserver, il fallait le garder. C'était presque comme une propriété privée pour eux à ne pas toucher. Il nous appartient. Or, c'est là qu'ils se sont trompés. Jésus a rectifié leur considération du Christ. Regardez bien au verset 35. « Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Jésus annonce déjà un peu la couleur qui va se passer dans quelques jours après ce texte. Pour lui, sa mort signifie une vie en abondance. La mort de Christ signifie une vie en abondance pour le monde entier. Les disciples étaient égoïstes. C'est du pur égoïsme de la part des disciples de garder Jésus en vie. Je dis bien de garder Jésus en vie. Ils croyaient qu'ils l'aimaient, mais c'est de l'égoïsme. Car cela ne servirait à rien si le Christ n'était pas mort. Nous, aujourd'hui, on ne serait pas là. S'ils n'accepteraient pas à mourir pour que tout soit sauvé, le plan de salut aurait pu échouer. Jean chapitre 12, verset 24. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors les disciples sont en train d'être confrontés à une toute autre réalité qu'ils ne connaissent pas. La réalité du royaume de Dieu. Réalité du royaume de Dieu, il donne sa vie au monde et cela donne la vie éternelle pour tous. Une vie donnée et une vie éternelle est la conséquence. Quelle est cette réalité de la vie éternelle? Rappelez-vous, lors du baptême de Jésus, lors de la transfiguration, « Voici mon fils bien-aimé. » Or, ce fils bien-aimé, ce fils unique, il n'avait pas deux, mais juste un. Il l'a laissé mourir à la croix. Et même le Christ a posé la question, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Or, tu as dit, voici mon fils bien-aimé. » Est-ce ça l'amour ? Un Dieu qui aime son fils bien-aimé et qui le laisse agoniser entre les mains des pécheurs. Voilà la réalité du royaume de Dieu. Dieu le Père a donné son Fils unique, mort sur la croix. Et par la suite, nous sommes devenus ses co-héritiers de ce Fils unique. Les histoires de miracles dans la Bible, telles que la veuve de Sarepta par exemple, donnent déjà aussi cette orientation de la réalité du royaume de Dieu. Souvent, on s'arrête sur l'image, « Ah, mais Dieu a fait des miracles. » Il a su faire quelque chose pour cette femme. Mais regardez, qu'est-ce qui est derrière ce miracle? Cette femme qui n'avait qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et à ce moment-là, Élie arrive. « Femme, fais-moi manger. » Elle n'avait que ça pour elle. Mais elle avait tout de même fait des galettes pour Élie d'abord. « Donnez !» Reprendre ce qu'on a entre nos mains et Dieu donne la vie éternelle. C'est ça la réalité. Cette réalité du royaume de Dieu est la réalité de la croix. Christ, le Fils unique qu'on a donné encore sur la croix. Source de vie éternelle pour le monde entier. Alors si Jésus nous dit que celui est celle qui veut me suivre, Jésus te lance un appel aujourd'hui. Est-ce que tu veux me suivre? Alors il te pose la question, es-tu prêt à porter ta croix? Autrement dit, es-tu prêt à vivre dans cette réalité du royaume de Dieu où tout est complètement à l'opposé de ce que nous avons reçu comme éducation depuis notre enfance? C'est ça la réalité, c'est ça la croix. La croix n'a rien à voir avec nos problèmes de tous les jours. La croix n'a rien à voir avec nos soucis quotidiens, parce que nous avons toujours eu l'habitude d'entendre à chacun sa croix. Ça, c'est une croyance populaire. La maladie n'est pas une croix. Les problèmes de la vie de tous les jours, ce n'est pas la croix. La croix est spécifiquement destinée pour celui qui croit en Jésus. Et c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Mais si, comme chrétien qu'il en est, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. Ce que Pierre nous exhorte alors n'a rien à voir avec le dolorisme, c'est-à-dire le fait d'aimer la souffrance. Ce n'est pas ça, suivre Dieu. Non, ce n'est pas de tout cela. Pour lui, cette souffrance de la croix vaut la peine d'être vécue, parce que nous savons qu'à la fin, il y aura des vies qui en bénéficieront. Verset 34. Renier sa vie, c'est conquérir d'autres vies. Renier sa vie, c'est conquérir d'autres vies. Si vous regardez dans la vie de tous les jours, c'est ça la vie d'un serviteur de Dieu. Tu donnes une partie de ton temps, tu donnes une partie de ton argent, tu donnes ta vie pour les autres, pour que ce frère ou cette sœur puisse aussi goûter à la vie éternelle. C'est ça la réalité de la vie éternelle. Mais si tu commences à réfléchir que pour toi-même, je dois me préserver, je dois me garder, je dois d'abord penser qu'à moi, alors que deviendront les autres autour de toi, ceux qui n'ont jamais entendu parler du nom de Dieu? La réalité de la vie éternelle, la réalité du royaume de Dieu, c'est ce que le Christ a fait. Il a donné sa vie pour que tous soient sauvés. Amen.